Tout d'abord, pour moi, donc ce type de donc d'atelier, c'est d'abord c'est innovateur, puisque voilà, ça fait que quelques années seulement qu'on commence à parler donc de ces thématiques de manière, on va dire, assez sérieuse.
Alors, évidemment, l'approche est différente en fonction des personnalités qui sont intervenues sur le projet.
Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que je dois quand même avouer qu'au départ, je ne voyais pas très bien. Je voyais très bien ce que j'allais faire pour les deux premières heures, le premier atelier. Je voyais un peu moins bien ce qu'on pouvait faire après. Et donc, en discutant avec Magali, et elle m'a pas convaincu, mais enfin, elle m'a convaincu dans la mesure où finalement on a été au bout du processus et c'était quelque chose qui finalement j'avais l'impression de pas tout maîtriser et c'était très bien comme ça.
C'est un atelier, en effet, c'est pas mal d'avoir choisi ce mot parce que c'est pas exactement une formation dans le sens où c'est plutôt un lieu où on va échanger et partager ses expériences, ses savoirs les uns les autres. On va être invité à faire ça à partir d'un tout petit apport théorique. Après, les participants vont surtout être invités à échanger, partager ce qu'ils ont vécu, quelle est leur réflexion par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près à la colonisation.
Le but était d'amener ces questions-là aussi aux membres des ateliers. C'est-à-dire comment eux, personnellement, se situent par rapport à cette question du néocolonialisme. Comment ils y sont imbriqués, même sans le vouloir. Comment ça résonne en eux. Comment ça influence leur vie, en fait, parfois, de façon assez forte. Et du coup, les inviter à se positionner par rapport à cette question. Tout en travaillant la question, évidemment, de l'oralité et des histoires. Et donc, en fait, on se rend compte qu'en fait, les gens ont plein d'histoires sur cette question-là. Même si parfois, elle est éloignée de la question du Congo, mais en fait, elle touche à la question de l'immigration. En fait, la pensée, c'était, on a toujours l'impression qu'une problématique est extérieure à nous. C'est un moyen de domination, évidemment, de la pensée dominante. Puisqu'évidemment, mettre un sujet loin, ou comme si c'est ça, ou là, ça c'est des questions que je ne touche pas, la question du féminisme, je n'y touche pas, ça ne m'appartient pas, non, je ne suis pas féministe parce que j'aime les hommes, donc je mets cette question loin. Or, si on revient à l'individuel, à la personnalité, cette question touche tout le monde. Donc, le colonialisme, c'est une question qui touche tout le monde.
1986, Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Je suis à l'école. Je m'appelle Soraya, mais dans ce lieu, à cette époque-là, je m'appelle Julie. J'écris derrière mes dessins Julie. Dans la classe, il y a des petits Adrien, Amélie, Martine, Mathieu, peut-être, je ne me rappelle plus. Que des petites têtes blondes. Et moi ? Petite tête brune. Donc, pour appartenir au groupe, je m'appelle et me signe Julie pour bien correspondre à la classe. 3 ans plus tard, 1989, bicentenaire de la Révolution française. Je suis dans une école, dans une autre banlieue, dans le 93, Épinay-sur-Seine. Et là, des têtes me ressemblent en plus. Sabrina, mais aussi Valérie, Virginie, Hamza, Nelson, Abou sont dans ma classe. Et ce jour-là, tous vêtus aux couleurs françaises, nous célébrons la Révolution française.
Et alors l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé dans cet atelier, c'est l'idée aussi qu'on n'allait pas travailler sur des discours. On allait surtout parler d'expériences et de partage d'expériences, de souvenirs, de choses qu'on a vues, de films, de musique. Et finalement, tout le monde a quelque chose à dire par rapport Par rapport à cette idée de privilège, de décolonisation, de racisme, et en sortant tout à fait des discours, parlant vraiment d'expériences personnelles, en allant chercher dans des souvenirs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et souvent très, très touchant et très émouvant, quoi.
Pour rebondir ou pour faire lien à ce que Soraya disait, même si c'est peut-être pas la même chose, mais ça m'a évoqué, alors que je pensais raconter tout à fait autre chose. Ça m'a replongé dans les années fin des années 80, donc à Scarbec, dans mon école, l'Institut Saint-Dominique. Et c'était à mon cours de religion, donc religion catholique. La prof de religion pose une question et elle demande qui ici est de confession musulmane, parce qu'on va parler un petit peu de cette religion. Et donc moi, je lève la main. Et elle me regarde et me dit « Non, Violetta, là, on n'est pas en train de rigoler. Donc, tu baisses ton bras et je repose la question, d'accord ? Alors, qui est de confession ?» Et donc, je baisse le bras. Et depuis ce jour-là, je me pose beaucoup de questions sur les religions. Je n'ai pas changé ma religion. Même si elle est très confuse, parce que je suis rentrée chez moi en courant, et là, j'ai demandé à ma grand-mère, parce que c'était avec elle que je partageais et que je parlais d'histoire et de tout ça. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous prend pour autre chose qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, voilé ou... on n'est pas musulman, quoi. C'est cette question, pourquoi est-ce qu'on n'est pas typé je sais pas, il faut être typé pour être musulman? Voilà, ça c'est ma question. Et depuis, ça m'a énormément... Enfin, j'adore parler des religions, j'adore chercher et trouver et m'instruire là-dedans parce que ça me passionne. Peut-être parce que, justement, on m'a dit, tu baisses le doigt. Allez, non. Voilà, merci.
Et donc, en tout cas, mon approche sur le projet, c'était la question du sensible. Je me rends compte que dans mon travail et dans le travail qu'on peut faire aussi avec Magali, c'est toujours la question de l'individu en rapport avec l'autre et en rapport avec ce qu'il y a de plus grand que lui, c'est-à-dire les problématiques de la société ou les empêchements même de la société. Et puis, enfin, même au-delà les problématiques générales, comme peuvent l'être le colonialisme. Et donc, c'est comment, pour moi, mon approche, c'est comment l'individu se situe par rapport à ces questions-là. Donc, moi-même, comment je me situe par rapport à la question du colonialisme ou du néocolonialisme. Où est-ce que je suis ? Parce qu'il y a plein de réflexions par rapport à des collègues ou des gens qui sont des personnes racisées, ce que je ne suis pas, puisque je suis une femme blanche. Et donc, du coup, et voilà, quel rapport j'entretiens avec cette problématique, comment elle m'appartient, sans que j'y ai même réfléchi. Et donc, évidemment, c'était tout le travail de déconstruction.
Mais ça dépend... Non, mais c'est pas ça. Ça dépend ce qu'on entend par racisme. Si eux, ils entendent par racisme le fait d'être... Voilà, on ne veut pas te parler parce que t'es blanc, ça existe. Mais nous, ce n'est pas de ce racisme-là qu'on parle. Quand on parle, nous, de racisme, on parle du racisme qui t'empêche de trouver un logement. On parle du racisme qui t'empêche que tes enfants aient dans des écoles de qualité. On parle du racisme qui t'empêche de trouver un emploi. On parle du racisme qui t'enlève des droits, qui t'empêche de voyager. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas des mêmes choses. C'est pour ça l'importance des mots. Je crois qu'avant qu'on commence un débat, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Tu parles de racisme, voilà, et de où on part. Parce que quand c'est ça qui se passe malheureusement, que ce soit dans les journaux, les interviews et tout, on ne parle pas de la même chose. Oui, le racisme anti-blanc. Oui, je connais des gens qui n'aiment pas les blancs. Ben oui. Comme il y a des gens qui n'aiment pas les noirs, c'est vrai. Chez les mâles. Parce que toi, on parle du racisme. Ah oui, mais tu sais quoi, les Arabes, c'est eux qui ont commencé l'esclavage, et les Arabes, ils n'aiment pas les noirs. D'accord ? Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu connais combien d'Arabes, toi, qui empêchent ? Combien d'Arabes qui vont empêcher un noir d'accéder au logement? Qui a les clés de ce système? C'est pas les Marocains de Bruxelles, hein. Donc c'est ça qui c'est faussé le débat. Et alors on commence à parler pendant une heure, deux heures de quelque chose de futile et de caduque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut être égaux par rapport à des droits. Comment une femme noire, une femme arabe portant le voile peut avoir les mêmes chances d'accéder à un logement de qualité et elle n'est pas obligée de choisir entre un taudis et un taudis. Ou un taudis, parfois, et même la rue. Oui. Et c'est ça, en fait, les faux débats, en fait. Et quand on vient, on te dit, ouais, mais tu sais quoi, hein, le racisme... En... Oui, d'accord. Même dans les Marocains, t'as des rifs. T'as des Sahraouis, des gens du Sud. Ils s'aiment pas. C'est pas grave, on s'aime pas. C'est comme ça. Les rifs, ils te parlent de... Mais je veux dire, tu vois, mais c'est du racisme. Quand tu entends certains rifins qui parlent de... Alors qu'on est tous de nationalité marocaine, comment ils parlent du Nord, du Sud, tu m'aimes pas, me fréquente pas, c'est tout, quoi. Mais, voilà, mais dans les rifins, il y a des gens super, je vais aller vers ces gens super. Mais c'est pas le rifin qui m'empêche à moi de ne pas trouver un emploi. Par contre, si on sent, comme tu disais, de où on est, si on change de lieu, là on parle de la Belgique, mais si je vais ailleurs et que je vais au Maroc, effectivement, et qu'au Maroc, une catégorie de personnes arabophones vont pouvoir mettre des bâtons dans les roues à certains rifins, effectivement, et ça a été le cas, où les rifins n'ont pas pu donner des noms, des prénoms de leur choix à leurs enfants, etc. Je ne suis pas rifaine, mais bon, j'essaie de voir les choses dans la globalité. Et du coup, là, oui, là, on peut parler évidemment de racisme, parce que là, on est dans un racisme structurel. Et effectivement, les politiques marocaines de l'époque ont empêché des rifins d'avoir accès à l'université, à l'école. Et là, oui, et là, notre curseur, il se met ailleurs, et on peut parler de racisme. Mais sinon, quand on ne parle pas des mêmes choses, il y a un souci. Alors, tu peux parler avec un gars, un intellectuel, pendant 20 ans, on ne se comprendra pas, il va te dire, mais oui, il y a du racisme anti-blanc.
Oh, le sentiment d'avoir peut-être exploré une piste intéressante par le sensible, que par cette dimension-là, il y avait quelque chose d'autre que celle qu'on peut trouver dans le débat d'idées ou l'échange d'arguments ou la confrontation de connaissances, de savoirs. Il y avait autre chose qui avait été sollicitée. Et que c'était une bonne manière d'explorer cette thématique par ce biais-là, parce que il me semblait que la parole avait été plus facile à. Je ne parlerai pas à la place des gens en disant qu'ils ont parlé plus facilement que ce qu'ils n'auraient fait dans un autre contexte, mais il me semblait que ce qui avait été partagé l'avait été assez facilement. Qu'il y avait une honnêteté dans ce qui avait été dit, une authenticité et une grande simplicité. Et que donc, ça nous permettait à ceux qui... Enfin, à moi, en l'occurrence, qui n'étaient pas sur le même pied d'égalité au départ, parce que l'égalité, oui, elle existe, je tends vers... Enfin, j'aimerais bien dans les ateliers que ça tende, mais on sait très bien que celui qui vient avec une proposition et qui vient avec une méthodologie, ben, il n'a pas tout à fait la même place que celui qui ne la connaît pas, cette méthodologie, même si celui qui la connaît fait tout ce qu'il peut pour essayer de l'oublier avant qu'elle n'existe. Et que, en fait, cette dimension-là de sensibilité, elle permettait de rencontrer autrement les personnes sur ces questions que ce que je n'avais rencontré précédemment, où c'était plutôt dans la discussion vive, parfois les coups de gueule, la dispute, la non-compréhension.
Oui, c'est aussi presque 10 ans de réflexion, d'engagement aussi, parce que quand on est au cœur du parcours de quelqu'un qui fait des papiers et de ce qui l'a amené à venir jusqu'en Europe, etc., et c'est quelque chose qui est tellement intime, qui est tellement personnel, et en fait, l'intime est politique. Donc je crois qu'à la base, il y a une réflexion en effet personnelle qui est personnel et du groupe, du collectif de Magali, Nadège, Michel, qui est très forte. Il y a aussi la pensée politique sur comment on fait passer des informations. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est comme s'il y avait parfois une chape de cette pensée intellectuelle qui nous empêche de penser par l'individu et par sa connaissance, son expérience propre. Et je pense que, je suis dyslexique, je suis peu dyslexique, donc ça veut dire que j'ai toujours voulu me conformer à la norme scolaire, et j'ai toujours voulu essayer de me conformer à ce que je n'étais pas, à une certaine norme. Et Magali a aussi cette expérience-là de la question de la dyslexie. Et Michel a aussi un parcours qui est tout autre, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la recherche documentaire par un autre biais que l'université. Et donc, il y a une pensée de où est le savoir. Et le savoir, il est aussi dans les individus.
Non, je me suis rendu compte, c'est ma petite, parce que elle a 2 ans et demi, et donc pour le moment, les Barbies, j'en ai pas acheté, j'ai récupéré deuxième main, des trucs à donner. Et puis effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, parmi les Barbies, il n'y avait pas de Barbie noire, ni basanée, ni. J'étais là, ah ouais, ni métisse. J'étais là, ouais, bon, il va falloir qu'on règle cette question-là parce que c'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, j'ai mis une annonce sur Facebook en disant que je cherchais une poupée noire pour ma fille. Et j'ai eu pas mal de réponses, positives d'ailleurs. Et il y a une dame qui m'a donné le nom d'un site où on pouvait acheter ces poupées-là. Et je suis allée sur le site. J'ai vu le prix des poupées noires, 65 euros. J'étais là, waouh! Ah ouais, ok. Donc, pour avoir accès à ça, il faut débourser cette somme-là, alors que pour les Barbies blanches normales, ça coûte vraiment que dalle, quoi, pour dire. Et là, je me suis dit, ouais, ok. Donc, pour donner cette chance-là à ma fille de diversifier les trucs, je dois débourser cette somme-là. J'étais un peu interloquée, ça m'a choquée, quoi. Je dis, bon, pour le moment, on va continuer la récup jusqu'à ce qu'on va trouver des Barbies noires.
Donc effectivement, je pense que tu as participé en venant enregistrer les différentes séances et que tu as été plus loin que ça, que c'est que tu t'es vraiment intégré dans le groupe en participant aux exercices. Et d'ailleurs, ça a été le cas aussi des animateurs, donc Alice, Magali et moi-même. Voilà, il y a des formations que j'ai pu donner où je propose des exercices aux participants et ils les font. Et moi, je ne les fais pas. Ici, c'était l'idée de se dire, ben voilà, on joue tous le jeu, on se retrouve tous sur un pied d'égalité. Et c'était ça aussi l'idée qui a, à mon avis, créé une plus grande confiance dans le groupe aussi, entre nous, où finalement, il n'y avait pas ce côté surplombant, où il y a ceux qui savent et ceux qui sont là pour s'exprimer. Et non, on était tous là dans le même bain à parler, à échanger, à réfléchir ensemble, à réagir par rapport à ce que l'un et l'autre avaient dit. Et donc, c'était intéressant aussi à ce niveau-là, cette idée d'égalité dans la parole aussi, quoi. Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé là très récemment. Donc, c'était mardi passé. Je terminais le GAFI, donc le travail. Donc, je suis passée dans la rue de Brabant. Il y avait beaucoup de monde. J'ai été dans les magasins. J'ai acheté quelques fruits et légumes préparer le repas du soir, et en même temps je vais visiter mes parents, donc j'avais appris quelques fruits pour eux. Et puis comme d'habitude, je dois passer par la gare du Nord pour pouvoir prendre le tram. Et donc là, j'arrive dans le hall principal de la gare du Nord. Je marche tranquillement, j'avais mon masque, mes sacs, j'avance, je vois quand même que des gens sont devant les panneaux d'affichage, mais qu'ils regardent quand même au loin. Je suis un petit peu leur regard, et là je vois qu'il y a un attroupement dans le hall, et je vois qu'il y a six policiers qui sont là, positionnés en demi-cercle, et donc ils entouraient deux jeunes gens. Et en plus des six policiers, il y avait encore, je crois, 3 ou 4 agents de Sécurail qui sont habillés en rouge et blanc. Et donc, quand j'ai vu cette vision, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment... ça m'a dégoûtée, ça m'a... J'étais fâchée, Et donc, je suis passée devant eux et je me suis arrêtée un moment et j'ai fait une remarque en disant que... J'ai dit que c'était, pour moi, c'était scandaleux, que c'était du cinéma, que c'est pas qu'ils ne pouvaient pas contrôler les gens, mais que voilà, pourquoi est-ce qu'ils font ça comme ça, au milieu de la gare, devant tout le monde, que c'était une humiliation, qu'ils pouvaient prendre ces jeunes et aller un peu plus loin. Je crois que dans les locaux, dans la gare, il y a des locaux où on peut contrôler les gens si vraiment c'est nécessaire. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai vraiment dit très fort que c'était vraiment un cinéma et qu'ils n'avaient pas à fouiller les gens comme ça, devant tout le monde, quoi. Parce que je sais que c'est une humiliation, de un. Et de deux, je leur ai dit qu'après, qu'il ne fallait pas qu'ils s'étonnent que si les jeunes n'aiment plus la police, il ne fallait pas qu'ils s'en étonnent. Du coup, il y a les policiers m'ont regardé avec un regard très bizarre parce qu'ils ne m'ont pas adressé la parole. C'était plutôt le gars de sécurité qui m'a dit sur un ton « Oui, mais madame, passez votre chemin, de quoi vous vous mêlez, etc. » Mais bon, moi, je suis partie avec un sentiment vraiment de tristesse, de colère et d'impuissance. Face à ça, voilà. Et donc, je suis partie prendre mon tram. Et j'étais vraiment pas bien. Parce qu'en même temps, je me posais un million de questions. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut remonter ? Est-ce qu'il faut... Voilà. En sachant que, voilà, il peut y avoir aussi des conséquences pour nous aussi, pour moi aussi.
Alors donc ça s'est fait avec l'atelier du GAFI, donc qui est le GAFI qui est une association qui s'occupe principalement des femmes immigrées et donc c'était principalement les animatrices. Il y avait un ou deux animateurs qui étaient là aussi et donc voilà, donc c'était l'idée aussi, c'était de leur donner à eux aussi un outil que eux allaient pouvoir réutiliser dans leur travail, dans leur atelier. Et je pense que dans les échos qu'on a eus, effectivement, il y a des choses qui pourront relativement facilement eux-mêmes reprendre et reproduire aussi, quoi. Comme je disais, comme j'insiste là-dessus, c'est vraiment l'idée que c'est un travail de co-construction qu'on a fait. C'est-à-dire qu'effectivement, à part la séance la première matinée où j'ai présenté toute une série de documents audiovisuels, pour le reste, ça s'est basé sur leur proposition, ce qu'elles avaient à dire. Et alors aussi, ce qui était très intéressant, c'est que chacun est venu avec ses expériences et alors aussi a pu confronter les expériences avec les expériences des autres. Par exemple, il y a eu quelqu'un qui a parlé, issu de l'immigration, qui est arrivé en France et qui, à 4 ans et demi, a décidé de changer de prénom et de prendre un prénom européen. Et une autre participante a dit, tiens, la même chose est arrivée à mon frère. Et donc, de voir tout à coup ces liens qui pouvaient se faire, que ces histoires communes, enfin, que tout à coup, il y avait une histoire commune qui pouvait se faire aussi, qui pouvait s'inscrire, c'était à la fois aussi surprenant pour les participants et les participantes que pour nous, les animateurs et les animatrices, quoi. Alors, vous voulez sentir un fil invisible qui part d'ici et qui va... Levez la tête, donc vous ne levez pas comme ceci, c'est simplement la tête qui grandit et la colonne aussi, qui, comme si vous grandissiez. Ce fil vous tire vers le haut, voilà. Et des petits fils vont s'enrouler autour de vos doigts, comme si vous étiez une marionnette, et vont tirer les doigts, mais uniquement les doigts, vers le haut aussi. Puis autour du poignet, et la main va se lever aussi. Autour du coude... Et les coudes se lèvent aussi.
C'est une question qui me taraude depuis quelques années, où les workshops que j'organise ici, que je propose, le travail de création, tout le travail dans la formation longue pour les gens qui sont intéressés par cette forme d'art, les rencontres avec Thierry Duira, donc danseur chorégraphe qui nous a aidé à mettre en place la journée oralité décoloniale, donc on a fait finalement en visioconférence le 27 mars. Cette dimension, en fait, de nouveau, de comment on met au service de ce qu'on a à dire le corps et comment la parole ou comment on écoute son corps qui souvent a déjà dit les choses, a déjà exprimé certaines choses, une attitude de fermeture, d'ouverture, d'hésitation, un grand silence, une façon de tapoter les doigts sur une cuisse, d'avoir un sourire, de cligner des yeux. toutes ces dimensions corporelles sont langage. Et donc, si on se coupe de ce magnifique vecteur corporel qui amplifie ce qu'on a à dire, qui joue comme une caisse de résonance, en fait, on se coupe, je pense, d'une certaine forme de liberté, d'accès à une liberté qui est amoindrie, qui ne passe que par une zone, que par un chemin. Alors que si on ouvre ce chemin corporel, parce qu'on parle par la peau, on parle par les os, quand je suis en train de te parler, ça résonne dans mes os, ça résonne dans mes muscles. Et si ce joint, cette charnière est établie, parfois, pas toujours, mais parfois, sauf quand le corps est vraiment en douleur et que le mot n'arrive pas à réparer, parfois, ça peut amener à une parole plus libre, plus libérée. Et puis aussi, c'est une façon d'aborder la séance comme un jeu. C'est-à-dire, ça n'a aucune espèce d'importance, au fond. Nos paroles sont éphémères, rien n'est gravé dans le marbre. Et on peut très bien avoir un avis un jour et en changer le lendemain, heureusement. Donc, c'est aussi une manière de se dire, finalement, si on est en confiance, on est ensemble et qu'il y a un minimum de respect entre nous, qu'est-ce que je risque, au fond, de donner ma parole, de la partager, et si je suis juste de moi à moi, et si je sais d'où je parle et à qui je m'adresse. Donc, tous ces jeux sont des manières de lever les barrières qu'on se met sous de soi à soi, et aussi bien les personnes qui viennent proposer l'atelier que les personnes qui y participent. C'est une manière aussi de faire parenthèse avec le monde de l'extérieur et de se dire on s'accorde une disponibilité par rapport à ce qui va arriver. On peut se l'accorder, on a le droit de se l'accorder. Et puis les chants, le jeu de la danse mobilisent des zones du cerveau qui agissent autrement après quand il s'agit de mettre ses idées en place et de choisir les mots qu'on a envie de partager. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime à creuser, de voir comment le mouvement sert la parole, quand la parole surgit et de quel endroit de nous elle surgit. Je n'ai pas fini d'en faire le tour, mais voilà, c'est très intéressant, je trouve, très très intéressant. Et au fur et à mesure des expériences avec des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler le corps, on voit combien on entre vite, quand c'est présenté comme un jeu, combien on entre vite dans cette dimension corporelle, en fait, beaucoup plus vite qu'on ne pourrait l'imaginer assis sur une chaise en se disant « Demain, tu vas faire la danse du petit doigt, hein, comme Michel propose. » On dit « Ben non, moi, jamais. » Et en fait, tout le monde se surprend à faire la danse du petit doigt. Et quand on a fini, on se dit « Ah, oh, c'était vraiment bien, en fait, on a dansé ensemble. » Aussi, c'est une manière de rencontrer l'autre dans un silence, avec le corps qui est en mouvement, mais sans tout de suite tomber dans les pièges de « Comment tu t'appelles ? D'où tu viens ? C'est quoi ton métier ?» Et on le fait tous. Mais qui permet de rencontrer l'autre à un autre endroit. J'ai encore, en image, en te parlant, je vois encore des corps qui bougent. Eh bien, ça me dit autre chose que ce que ces personnes ont dit d'elles après en mots. Ça me dit autre chose d'elles. Et donc, je suppose que de moi, elles ont vu des choses aussi qui m'échappaient. Voilà, je trouve que c'est passionnant, ça.
On se redresse et on redresse la tête. Et comme vous le proposiez, ben, on peut s'étirer et bâiller. Et on fait un rapide tour du propriétaire et observez s'il y a d'autres sensations par rapport à tout à l'heure qui apparaissent. Parler ou raconter, ce n'est pas uniquement juste la tête qui fonctionne. Il y a tout le reste du corps qui est mis en branle aussi. Et donc, on n'a pas exagéré, on a fait quelques petits exercices d'échauffement. Mais pour moi, ce qui était important, c'est vraiment cette idée de se dire, bon, maintenant... on passe du monde quotidien dans lequel vous êtes, on va passer dans un autre temps, et alors aussi on va se reconnecter avec ici et maintenant. Ça, c'est quand même, je pense qu'au niveau de ces exercices, ça avait cette fonction-là aussi, quoi. Mais ici, le but n'était pas forcément que les gens deviennent des conteurs, mais qu'il y avait vraiment cette idée de se dire prenons conscience de notre corps, de ce qu'on vit, et peut-être que ces mémoires, elles ne sont pas uniquement dans la tête, elles sont peut-être au bout de tes doigts, enfin voilà, donc c'est une manière de se rendre disponible aussi à ça, quoi.
Et voilà, donc ça permet de se mettre ou de se remettre en réflexion par rapport à ce thème qui nous touche tous en tant que Belges, mais en tant qu'humains, parce que Voilà, la colonisation fait partie de notre histoire sur notre planète depuis bien longtemps et est loin d'être terminée. Elle prend juste tout le temps d'autres formes. Dans ce sens, c'est très intéressant de s'interroger sur ce qu'ont vécu nos ancêtres, puisque la colonisation du Congo date de la génération, en gros, de nos parents, de nos grands-parents. Et puis de ce que nous, on vit aujourd'hui et de ce que les gens autour de nous, soit vraiment autour de nous ici à Bruxelles, soit dans le monde, vivent maintenant de cet ordre-là. Voilà, c'est un peu un atelier qui permet de se mettre en réflexion et d'amener aussi dans les échanges entre nous, de mettre l'accent sur cette lecture-là du monde, de notre rapport au monde, de notre rapport à nous-mêmes, à l'autre.
Souvent, quand je raconte l'histoire de mon papa, enfin, j'adore raconter cette histoire. J'avais très, très dur avant de raconter. Je pleurais énormément. Aujourd'hui, j'arrive à raconter comme quoi. Pourtant, c'est l'histoire de mon papa. Mais j'imagine les forges, comment est-ce que ça s'appelle, de Clavec. Voilà, je les imagine. Je le vois, lui, 14 ans, mais je ne sais pas exactement, mais je vois une image avec une usine derrière lui, et je le vois devant ces usines-là. Mm-hmm. C'est toujours... Et pourtant, il ne m'a jamais montré d'image, rien, mais je vois un gamin de 14 ans, enfin, j'imagine mon fils devant cette usine, quoi. Et ça me fait du mal, en fait. Ouais. J'ai beaucoup de peine, même si lui n'a jamais dit que c'était mal. Hein. Il était très fier de dire, moi j'ai travaillé à 14 ans. Hein. Quand il racontait à mes enfants, c'était une fierté de dire qu'il a travaillé à 14 ans. Mais moi, non. Moi, quand je pense à ça, je n'imagine pas mon fils faire ça. C'est pas possible.
On a eu de la chance de... Enfin, on est tombé sur un... On était avec un groupe qui a été très... Oui, très, très, qui a adhéré et qui, enfin, ouais, il y a eu des rencontres que j'oublierai jamais. Et vouloir, en fait, il y a juste une, je voudrais pas faire différemment, ce sera forcément différent. Ce que je me dis, c'est que j'aimerais l'approfondir. J'aimerais juste pouvoir approfondir les outils qu'on a commencé à débroussailler avec Michel et donc et remettre en ordre ce qui s'est passé, ce qui a été enfin ce qui s'est passé magiquement bien, et après donc avoir peut-être une pensée sur oui, comment ça se fait que ça a été si que ça a si bien fonctionné au niveau de la participation des gens, en tout cas.
Je sais pas, je vais réfléchir, hein, mais comme ça, tout de suite, je sais pas quoi, mais tout de suite, j'ai envie de te dire oui, j'ai envie que ça continue. Parce que j'ai l'impression qu'en effet, ça a ouvert des portes chez chacun de nous, et que c'est au moment où vraiment les portes s'ouvraient que l'atelier s'est clôturé, et qu'on a... Je pense qu'il y a eu des nouvelles perceptions, réflexions... Mais on a surtout eu le temps de rafraîchir et puis de voir qu'on pouvait aller plus loin. Alors je pense que ça pourrait suffire dans le sens où on reste, moi en tout cas, mais je sais que c'est partagé par certains, ça continue de nous accompagner, cette réflexion. Donc ça pourrait s'arrêter ici, mais si on me dit que ça continue, je suis vraiment ravie. Je n'attends que ça. Je pense pas que, justement, il propose quelque chose d'assez ouvert qui va se construire, se co-construire avec les personnes en présence. Et du coup, ça n'a peut-être pas tellement de sens pour moi, finalement, de réfléchir à qu'est-ce que je veux approfondir. En fait, j'ai plutôt envie de continuer ce processus-là et de me laisser surprendre par ce qui va surgir et ce qui va s'approfondir, voilà, par les interactions dans le moment présent. Et moi, ce n'est pas la première fois que je suis en atelier mené par la Maison du Conte, co-animé ensemble. Et je pense que c'est une marque de fabrique chez eux. cette façon de ne pas se poser en détenteur de savoir qui vient amener un savoir théorique, mais d'avoir l'art avec beaucoup de respect, de finesse et de bienveillance, d'amener les gens à ouvrir des portes de réflexion, de compréhension et d'envie de les partager, de les communiquer, et donc de créer entre les participants un terrain d'échange assez profond. Et tout ça dans un climat très respectueux et voilà, qui invite, qui libère la parole. Voilà.
Moi, je pense qu'effectivement, et j'aimerais bien faire l'expérience d'un jour le faire dans une classe où il n'y aura peut-être pas forcément des jeunes qui partagent toutes les mêmes valeurs. On verra déjà même avec les enseignants. Enfin voilà, donc c'est pas forcément acquis non plus. Je me disais, au fond, c'est qu'au départ, on était parti sur l'idée de décoloniser les esprits et tout ça. Et effectivement, on a abordé peut-être des choses qui sont en parallèle, qui sont liées, par exemple, au racisme. Cette idée aussi de... Le racisme, c'est pas uniquement ce qui est subi ou dit ou montré, mais c'est aussi ce qu'on ne montre pas. Et ça, pour moi, ça a été aussi une découverte. C'est-à-dire de se dire qu'au fond, il y a peu de publicité avec des hommes noirs, des femmes noires. Enfin, voilà, je raconte souvent la même anecdote. Moi, je suis très cinéphile. Il y a très, très peu de films américains qui parlent d'une relation amoureuse entre une femme blanche et un homme noir. Et donc, même dans le cinéma, aujourd'hui, en 2021, ça reste quelque chose qui est très rare. Et donc, c'est aussi par l'absence de choses aussi qui apparaissent que le racisme, il est là aussi.